Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Et pour introduire notre sujet du jour, un seul son pourrait suffire. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous parlons de vin. Qu'il soit rouge, blanc ou rosé, pétillant ou cuit, naturel ou mystérieux comme le vin de voile, nous le buvons jusqu'à la lie. Mais d'ailleurs, depuis quand cette histoire d'amour entre l'homme et la vigne perdure-t-elle? Les premières traces de pépins de raisin sauvage remontent à plus de 50 millions d'années. Mais ce n'est qu'en moins 11 000, que l'âge de pierre donne aussi naissance à la viticulture dans le Caucase et le croissant fertile. Depuis, ce breuvage n'a cessé de nous occuper le corps et l'esprit. On le retrouve dans de nombreux mythes et légendes partout sur la planète. Pour l'Occident, Noé plante ainsi la première vigne. Un peu plus à l'Est, ce sera Gilgamesh. Partout où il prend racine, le vin est un attribut de la sagesse, de la spiritualité, voire même de la divinité. Il est souvent associé au sang, comme dans le christianisme, ou chez les Égyptiens, où il devient sang de géant. Il est bien sûr aussi source de troubles et de dangers, une ambivalence qui définit Dionysos et ses bacchanales et qui justifie son interdiction en islam. Côté médecine, en moins 460, Hippocrate en recommande un usage limité, mais bénéfique, un débat dont nous ne sommes toujours pas sortis 2500 ans plus tard. Alors pour faire de vous des spécialistes de la question au prochain repas de Noël, nous recevons aujourd'hui une biologiste. Elle est spécialiste des micro-organismes du vin et dirige l'UMR, Unité Mixte de Recherche Sciences pour l'œnologie, où nous vous avons déjà emmené en reportage. Elle sort un ouvrage destiné au grand public intitulé « Le vin, 60 clés pour comprendre l'œnologie ». Fabienne Remis, bonjour et bienvenue dans Allume la science.
Bonjour.
Elle en a fait couler des litres et des litres, je parle d'encre bien sûr. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous continuons notre découverte de la station Méditerranée Environnement Littoral et cette fois nous découvrons le service des moyens à la mer. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55. 54.
Alors, pour commencer, tout le monde a un peu l'impression de savoir ce que c'est, mais est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'un vin? Quand on parle de vin, on parle de quoi exactement?
Alors, effectivement, un vin, c'est un produit assez particulier. Ça fait à peu près 150 ans que le vin est défini. Et pourquoi on l'a défini? Pour une très bonne raison, c'est qu'avant, on pouvait appeler vin quelque chose issu de la fermentation de raisins secs macérés dans de l'eau ou simplement d'eau sucrée. Et donc, le vin est le produit exclusif de la fermentation alcoolique du raisin.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous détailler rapidement les procédés qui mènent à sa fabrication?
Alors, c'est relativement simple et compliqué à la fois. Bien sûr, on va différencier entre vin blanc, rosé et rouge. Pour le blanc, on va d'abord récolter évidemment le raisin, enlever les rafles, le presser. Et avec ce jus de raisin qu'on appelle moût de raisin, on va réaliser la fermentation alcoolique. Ensuite, on aura des opérations de vieillissement qui mèneront au vin en bouteille. Alors la différence avec le vin rouge, c'est qu'on va avoir une étape de fermentation alcoolique qui se fait en présence des peaux et des pépins. Et donc ça va permettre d'extraire la couleur et puis d'autres composés importants pour le goût du vin. Et donc on ferait au vin rouge ses propriétés.
Alors juste le premier chapitre de votre ouvrage, il s'intitule « Le vin d'hier à aujourd'hui ». Est-ce que le vin d'aujourd'hui, il est très différent de celui d'hier ou de celui dont parlait Lucie, et le vin comme il a été créé à l'origine?
Complètement différent. Alors... Le vin fait de manière antique, on va dire, devait être agrémenté pour être parfois buvable. C'est-à-dire que si on laisse naturellement fermenter du raisin, du jus de raisin, on a une très faible probabilité d'avoir quelque chose de très très bon. Et donc pour cette raison, le vin était aromatisé, on rajoutait des herbes, on rajoutait des fleurs, on rajoutait plein de choses. Et donc comme je voulais dire, aujourd'hui c'est très contrôlé. Et en ce sens, le vin n'est pas un produit alimentaire comme un autre, puisque si je vous dis un yaourt, on rajoute du sucre, on rajoute des fruits, ça ne vous choque pas.
J'ai vu qu'on pouvait rajouter de la menthe dans les recettes antiques. Je me demande ce que ça donne du vin à la menthe. Alors, dans ce chapitre, vous parlez aussi donc, des levures. Une levure en particulier, la Saccharomyces cerevisiae, c'est ça, je me suis dit ?
Saccharomyces cerevisiae.
Donc, cette levure, c'est la levure la plus commune. Donc, depuis quand on l'utilise pour la vinification et où est-ce que ça naît, tout ça, justement, ces procédés ?
Alors, c'est elle qui s'est imposée dans un certain sens, puisque c'est elle la plus adaptée à réaliser cette fermentation alcoolique. Pourquoi elle est la plus adaptée ? Elle est minoritaire déjà au départ, si on récolte des baies de raisin. Et elle va petit à petit s'imposer parce qu'elle résiste très bien au niveau d'alcool qui va être croissant dans ce milieu. Lors de la fermentation, les sucres sont transformés en alcool, donc le degré alcoolique augmente. Et à la fin, elle se retrouve la seule à tenir la compétition.
D'accord, donc elle est déjà présente dans le raisin, en fait.
Elle est déjà présente à la surface des baies de raisin.
Alors, on apprend dans ce sous-chapitre aussi que la levure a été un des premiers ADN séquencés en 96.
Oui.
Alors c'est assez surprenant que ce soit de la levure. Qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça nous a appris, ce séquençage ?
C'est pas si surprenant que ça. On a des organismes modèles pour différentes familles d'organismes humains. Et donc, la levure, c'est le modèle de la cellule eucaryote. Bon, quand je vous ai dit ça, je vous ai peut-être un peu perdu, mais elle est ce que Escherichia coli est aux bactéries ou c'est Norabilis elegans aux animaux. Donc, c'est vraiment le modèle.
Alors, dans le chapitre suivant qui s'intitule le vin au pluriel, vous abordez notamment la question des vins sans sulfite. On en entend beaucoup parler, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est les sulfites et pourquoi il y en a dans le vin ?
Les sulfites apportent trois propriétés différentes au vin. Alors, la première propriété, en fait, c'est une propriété antimicrobienne. Donc, ils vont permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas des micro-organismes indésirables qui s'implantent dans le vin. Donc ça, c'est un des premiers points. Les deuxième et troisième activités ont des points communs, c'est les activités antioxydases, antioxydasiques. Elles vont empêcher l'oxydation des vins, en fait, par différents mécanismes, et donc le protéger de certains phénomènes qui conduisent également à des goûts qu'on ne souhaite pas.
Et du coup, comment on fait pour avoir des vins sans sulfite ? Parce que c'est ce qu'on voit beaucoup maintenant.
Alors, ce qu'on voit beaucoup, c'est des vins sans sulfite ajouté. Et donc ça, c'est un petit peu différent, c'est qu'on peut ne pas ajouter de sulfite à condition de bien travailler sa matière pour éviter justement toutes les altérations dont je vous ai parlé. Par contre, il faut savoir que la levure, naturellement, produit des sulfites, c'est un sous-produit de son métabolisme, c'est parfaitement normal, et donc il y en a normalement toujours un petit peu.
Alors, on n'a pas précisé que votre livre, donc il est composé de plusieurs chapitres, et dans chaque chapitre, donc des questions, 60 clés. On a sélectionné comme ça donc plusieurs clés. Ça donne pas une idée de tout ce qu'il y a dans votre ouvrage, mais une des clés qui nous a intéressé aussi, c'est la question des différences entre vin doux, vin naturel, vin doux naturel, vin liquoreux et vin cuit. Ça m'a intéressé parce que moi, je crois que je mettais tout dans le même panier. Donc, dans les vins liquoreux, on trouve quoi ? Du Montbazillac, par exemple ?
On trouve Montbazillac, on trouve Sauternes, ces vins liquoreux, on les appelle aussi des vins moelleux.
D'accord, donc c'est les moelleux.
Voilà.
Après, donc dans les vins doux naturels, on a quoi ?
Les vins doux naturels, alors on peut se dire aussi, ils sont sucrés. Effectivement, ils sont sucrés. Le procédé d'obtention est très différent dans le sens où on arrête la fermentation en rajoutant de l'alcool. Donc on va avoir par exemple des muscats. Muscat de Rivesaltes ou les différents muscats qui font partie de cette famille-là.
D'accord, donc que moi je mettais dans les vins cuits avec tous les autres. Et enfin, donc on a les vins cuits justement.
Alors vins cuits, effectivement, on appelle plein de choses vins cuits et il y a très peu de choses qui s'appellent vins cuits. Donc c'est un produit normalement spécifique de Provence et même les portos qu'on appelle vins cuits sont des vins doux naturels.
Mmh. Voilà. Et alors vous évoquez donc encore un autre vin qui est le vin de voile.
Oui. Alors ça, c'est un vin assez spécifique. Vous connaissez peut-être le vin jaune du Jura. On a aussi ce type de vin dans certaines régions, en Hongrie ou en Espagne, les Rejes. Excusez-moi pour la prononciation.
C'est pas moi qui dirais quelque chose.
Mais ce sont des vins qui ont une fermentation dans des conditions un petit peu particulières, dans le sens où un voile de levure se forme à la surface et donc confère au vin un goût très oxydatif, c'est-à-dire des arômes qui vont rappeler la noix, par exemple. Et ces arômes-là constituent une famille très typique et donnent à ces vins une caractéristique très particulière.
D'accord, donc tous ces vins de voile, justement, vins liquoreux, vins cuits, tout ça, c'est des vins oxydatifs, justement, c'est ça ?
Non, il n'y a que les vins de voile.
Très bien.
Alors, je reviens au raisin. Du coup, dans ce chapitre, vous parlez également du microbiote du vin, donc des bactéries et champignons qui sont contenus dans le raisin. Est-ce qu'on connaît leur influence sur le vin, à ce microbiote? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Qu'est-ce que ça a comme impact?
Alors, ce microbiote, effectivement, il est présent sur la baie de raisin. Il vient de l'environnement, de la vigne, du climat, de plein de choses. Et comme je vous l'ai dit, parmi ce microbiote, mais très minoritaire, on retrouve la levure qui va dominer la fermentation. On retrouve aussi plein de micro-organismes qui vont rapidement mourir en fait au début de la fermentation, mais qui peuvent avoir une influence à ce moment-là, au niveau aromatique, au niveau acidification par exemple. Et puis on retrouve des micro-organismes qui vont éventuellement survivre et à un moment donné arriver à se développer et à ce moment-là souvent entraîner de mauvais goûts ou par contre des goûts positifs.
Et vous parlez aussi dans ce chapitre des starters qui vont influencer le microbiote. Qu'est-ce que c'est ça? À quoi ça sert?
Alors les starters, en fait, c'est qu'on sélectionne des levures Saccharomyces cerevisiae. Ça, on le fait depuis plusieurs dizaines d'années. Et on cherche celle qui va faire une très bonne fermentation. Alors quand j'ai dit ça, je n'aurais pas besoin d'expliquer un petit peu plus, mais qui termine bien la fermentation, qui donne de bons arômes. Et cette levure-là sélectionnée, on va la multiplier donc, dans des entreprises et puis la rajouter au début de la fermentation. Et c'est elle qui va rapidement prendre le dessus sur les autres. Donc ça permet d'assurer en fait une certaine qualité au vin.
Alors, dans le troisième chapitre de votre ouvrage s'intitule « Le secret des caves ». Vous y évoquez donc la couleur des vins, les arômes, l'acidité, comment on la modifie justement, la fameuse question des bouchons en liège ou pas surtout, et vous arrivez sur la question des additifs. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un additif dans le vin ?
Alors, dans le vin ou dans tous les produits alimentaires, en fait, on va définir un additif comme une composée qu'on va rajouter à un moment donné et qui va rester dans le milieu. Et en ça, il est différent d'un auxiliaire technologique qui va permettre d'avoir une certaine action, mais qui ne va pas forcément être présent à la fin. Ou si, mais pas intentionnellement.
D'accord. Et donc, dans le vin, donc vous citez les acides organiques tartriques et lactiques, les acides ascorbiques, la gomme arabique. À quoi ça sert tout ça, en fait? Et est-ce qu'on peut faire du vin sans ça?
On peut. Néanmoins, par exemple, les acides permettent justement d'acidifier le vin, et on assiste depuis maintenant pas mal d'années avec le dérèglement climatique à des évolutions des vins vers des vins peu acides, d'où l'intérêt de corriger cette acidité.
Alors, vous nous avez parlé au tout début du processus de vinification et vous dites dans votre livre qu'à chacune de ces étapes qui se succèdent au chai, la qualité du vin peut être mise en péril. C'est quoi ces risques dont vous parlez?
Les différents risques, c'est essentiellement des risques de déviation organoleptique, de déviation sensorielle. Et donc, à ces différentes étapes, on peut engendrer soit des phénomènes d'oxydation, soit des développements microbiologiques qui vont avoir un impact négatif, principalement.
Et alors, vous évoquez aussi les innovations qui consistent à limiter ces risques. Et vous en citez une qui s'appelle l'osmose inverse, qui vise à désalcooliser partiellement le vin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de désalcooliser un vin?
Alors, on a différents points. On peut vouloir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on observe depuis une quarantaine d'années des effets assez importants du changement climatique. Donc avec une perte d'acidité, on a également une augmentation du degré alcoolique. Donc forcément, un vin à 12 degrés, un vin à 16 degrés, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut vouloir diminuer un petit peu ce niveau d'alcool. Et puis on assiste aussi à quelque chose d'assez différent, c'est-à-dire que des consommateurs souhaitent pouvoir avoir du vin, mais avec plutôt du 8 degrés ou voire moins de 1 degré, voire pas du tout d'alcool. Et donc dans ce cas, on veut désalcooliser réellement le vin.
Mais pardon.
On y arrive parce que moi, ce que j'ai goûté sans alcool, c'était pas très bon.
C'est pas très bon parce qu'en fait, dans le vin, l'alcool participe à l'équilibre. Et donc si on enlève l'alcool, ça paraît un petit peu plat.
Et pour enlever l'alcool, on procède comment? C'est simple ou c'est...
Il y a différentes techniques qui existent, soit des techniques membranaires, donc vous avez parlé de l'osmose inverse, soit des techniques basées sur la distillation, où en général on enlève l'alcool et les arômes, et puis on réinjecte les arômes. Donc c'est pas forcément très simple.
Alors, bien sûr, dans votre ouvrage, on parle de grand vin. On passe du vin sans alcool au grand vin. Quand on parle de grand vin, on parle souvent de terroir. Alors, c'est quoi un terroir et depuis quand cette notion, elle existe d'ailleurs?
Alors, le terroir, c'est une grande question. On parle souvent de terroir un petit peu à tort et à travers. Et finalement, ça fait moins de 15 ans que le terroir a une définition consensuelle. Où finalement, le terroir, c'est quelque chose qui résulte à la fois de la géographie, du savoir-faire et du cépage, en fait, de la matière première.
Pardon, et est-ce qu'il y a une influence réelle du sol et du climat, donc, sur le vin?
Et a une influence très forte, du fait notamment de la présence d'eau ou pas, par exemple, du fait de, des caractéristiques du sol qui vont conduire à certaines caractéristiques de la baie de raisin.
Alors, si on rentre dans des questions un peu plus pratiques pour les consommateurs, quand il s'agit de choisir un vin, tout le monde a ses critères. Et vous, dans votre ouvrage, vous en abordez trois. L'étiquette, le label et éventuellement les prix qu'auraient reçus les vins à ces concours. Si vous deviez conseiller quelqu'un qui veut choisir une bouteille sur des critères à prioriser, est-ce que ce serait faisable de dire, regardez plutôt tel ou tel critère pour être sûr d'avoir un bon vin?
Ce qui est sûr, c'est que les labels sont souvent plus fiables, on va dire, dans le sens où plus réglementés. Donc, par exemple, si on achète un vin bio, on sait que derrière ce nom-là, on a beaucoup un cahier des charges spécifiques et du coup des caractéristiques données. Après, les concours de vin, si on a l'habitude de connaître certains concours, on peut se fier à ça, mais c'est pas toujours aussi évident. Les pratiques peuvent être un petit peu différentes d'un concours à l'autre et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et après, les conseils d'un caviste qui connaît bien vos goûts et qui vous aura bien conseillé une ou deux fois, ça peut être aussi quelque chose de précieux.
J'en profite pour revenir vite fait sur la question des étiquettes. On a parlé des additifs tout à l'heure. Ils ne figurent pas pour l'instant sur les étiquettes. C'est quelque chose qui va changer, c'est ça?
Alors, c'est que la réglementation sur l'étiquetage des vins a effectivement évolué. Donc, on avait eu déjà des évolutions avec les petits pictogrammes déconseillés aux femmes enceintes. Un certain nombre de mentions qui sont obligatoires. Par contre, pour les additifs, ce qui va évoluer, en fait, c'est qu'on pourra avoir accès à la présence de ces additifs, mais via... pas directement sur l'étiquette, en fait, via, par exemple, un QR code.
Mmh, d'accord. Alors, l'avant-dernier chapitre de votre livre, il est consacré aux bonnes et aux mauvaises surprises du vin. Alors, pourquoi le vin tourne au vinaigre à notre grande déception? Que veut dire un dépôt? Mais aussi, quelle est la température idéale pour déguster un bon Gewurz ou un grès de Montpellier, par exemple? Alors, dans les classiques, on nous dit qu'il faut chambrer le vin rouge et servir le vin blanc frais. Alors, pourquoi on ne fait pas l'inverse? Est-ce que la température a une incidence particulière sur le vin?
Elle a une incidence immédiate sur la capacité des arômes à s'évaporer. Mais elle va avoir aussi une incidence sur ce qu'on va percevoir en bouche qui résulte d'interactions et qui va être dépendant de la température.
Et sur le débat, vous revenez aussi sur le carafage. Alors moi, quand j'étais petite, on me disait qu'il fallait absolument mettre le vin rouge dans une carafe. Après, on m'a dit, il ne faut pas, parce que si c'est un vieux vin, il va être plat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, en fait?
Eh bien, ça dépend. Mais ce qui est clair, c'est que le carafage, qui peut se faire avec une agitation assez forte, hein, ce n'est pas simplement un transvasement, il a pour objectif vraiment d'oxygéner le vin pour des vins qui ont été bouchés assez longtemps, qui peuvent être en partie réduits, en fait, par les conditions... du milieu. Donc, par exemple, une Syrah, c'est conseillé de la carafée.
D'accord.
Alors, dans ce chapitre, vous parlez donc des bonnes et des mauvaises surprises. Parmi les mauvaises, vous évoquez la levure Brettanomyces qui donnerait alors au vin un goût d'écurie. On s'est demandé ce que ça avait comme goût, l'écurie. Mais cette levure, elle vient d'où et pourquoi elle confère ce goût bizarre au vin?
Elle est présente dès le départ, en fait, dans la baie de raisin. Ce qui fait que cette levure est si particulière, c'est qu'elle est capable de se maintenir, même s'il y a des sulfites. Et puis, elle est très peu exigeante nutritionnellement. Donc, le vin, ce n'est pas un milieu facile pour se développer. C'est alcoolisé, c'est acide, il n'y a pas de nutriments. Et cette levure réussit quand même à se développer. Et en plus, elle produit des arômes qu'on appelle des phénols volatiles, qui ont effectivement des touches aromatiques plutôt négatives.
L'écurie, donc.
L'écurie.
Il y a un sacré vocabulaire. On n'a pas eu le temps de s'y attarder, mais il y a un sacré vocabulaire dans le vin. Donc, dans le dernier chapitre, vous abordez bien sûr l'avenir de la vigne. Et cela commence par la question écologique, notamment l'eau et les pesticides. Alors, on va commencer par l'eau. Cette vigne, on le sait, elle est gourmande en eau. Aujourd'hui, seuls 10% des vignes en France et 15% en Languedoc sont irriguées, alors que les vins du Nouveau Monde le sont déjà quasiment toutes. Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard en France alors que la ressource est de plus en plus tendue?
Eh bien, justement, moi, je ne parlerai pas de retard, finalement. La vigne, elle a besoin une certaine quantité d'eau, ce qui est peut-être un peu différent d'autres cultures, c'est qu'elle en a besoin à tous les stades de son développement, donc un petit peu tout le temps. Et donc on peut préconiser l'irrigation dans certaines régions où les précipitations sont faibles. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les ressources en eau étant tendues, il faut, à mon avis, réfléchir cette irrigation, avoir une irrigation de précision, le faire comme il faut, faire en sorte que ça ne s'évapore pas et que ça aille bien au sol, et du coup limiter les apports d'eau, en fait, par voie aérienne, par exemple.
Donc ça passe quoi ? Ça peut passer par le goutte à goutte, ce genre de choses ?
Tout à fait, goutte à goutte, et même ça peut être ajusté presque au cep près.
D'accord. Et juste un petit mot, les pesticides, on sait aussi que les vignes, elles sont très gourmandes en pesticides, elles sont fragiles. Est-ce qu'on a un moyen de faire du vin sans utiliser de pesticides ?
Alors, il y a plusieurs choses qui se développent, et notamment une piste très prometteuse, ce sont les cépages, ou les variétés plutôt résistantes à certains phytopathogènes. Donc, par exemple, le mildiou et l'oïdium. Donc, on a beaucoup entendu parler du mildiou cette année. Ces vignes-là, elles sont développées par des croisements, et du coup, elles permettent d'avoir ces propriétés-là.
Alors, pour terminer rapidement, on a parlé de changement climatique. Les vignes, elles vont être soumises à des conditions différentes et elles ne pourront pas toutes s'adapter. Comment on fait pour avoir demain encore des vignes qui pourront continuer à produire du vin malgré l'évolution des conditions ? Est-ce qu'on a des pistes pour ça ?
On a un certain nombre de pistes. Et après, il faut, je pense, avoir aussi une certaine lucidité, parce qu'on ne fait pas déjà aujourd'hui de la vigne dans le désert. Donc, il y aura quand même des limites. Mais on sait qu'il y a une diversité, en fait, génétique au niveau de la vigne, avec une diversité de cépages qui permettent d'avoir un panel de types, en fait, de baies de raisin et donc de vin.
Et justement, dans ces cépages, très rapidement, vous évoquez les cépages autochtones oubliés. Ils pourraient revenir, ceux-là, à la faveur du réchauffement climatique ?
Ils pourraient revenir parce qu'ils ont eu très mauvaise presse. On les a bannis parce qu'ils étaient justement fortement producteurs de raisins. On a dit qu'ils conduisaient à la formation de méthanol, ce qui était assez faux. Et ils pourraient revenir. Ce sont des croisements, en fait, entre la vigne qu'on utilise et d'autres cépages de vigne. On les voit de temps en temps émerger. On n'a pas le droit aujourd'hui de faire du vin avec, mais c'est quelque chose qu'on étudie.
Merci beaucoup, Fabienne Remise. Et un conseil à nos auditeurs, ça figurerait très bien sous le sapin de Noël, ce livre. On s'est régalé à le parcourir. Revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage, et c'est Adrien Blayac, technicien biologiste et responsable du service moyen à la mer, donc à la SMEL, la station méditerranée
de l'environnement littoral,
merci Aline, qui nous fait faire le tour de son petit local situé à quelques mètres des rives de la lagune de Thau. Au milieu des combinaisons et des bouteilles de plongée, il nous en dit plus sur les analyses faites en mer et dans l'étang.
Donc moi je m'appelle Adrien Blayac, je suis technicien biologiste et responsable des moyens à la mer à la station marine littorale.
Donc là on est dans un local, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on trouve dans ce local ?
Ce sont des instrumentations, ce sont des capteurs, ce sont des outils de prélèvement qu'on amène avec nous sur le bateau. Donc on a par exemple ici, ce sont des bouteilles, ce qu'on appelle des bouteilles Niskin, qui nous permettent de prélever de l'eau à n'importe quelle profondeur.
C'est un cylindre d'environ 50 cm de long.
Après, il y a différentes tailles également en fonction du volume. Celle-là, c'est un petit volume pour 5 litres. On a des plus grandes, on a une derrière vous, beaucoup plus grande, qui fait 12 litres. Et l'avantage de ces bouteilles, en fait, c'est qu'elles ont un corps creux. Et donc on les descend ouvertes, il y a deux bouchons au bout. Et après par un système qu'on appelle un système de messager, donc c'est un plomb, qui va venir taper sur un système qui va permettre de libérer les bouchons. Ça va fermer la bouteille et donc ça va nous permettre de récupérer de l'eau à n'importe quelle profondeur et de le ramener sur le bateau.
Vous faites de l'ADN environnemental aussi, c'est ça ?
Une partie oui, pour des suivis depuis l'année dernière. Et donc après, ce sont aussi des équipements qui sont... qui peuvent être utilisés par différents chercheurs. Alors, un peu plus simple, c'est juste un tube PVC, creux également. C'est ce qu'on appelle un carottier. Ça nous permet de récupérer du sédiment, c'est-à-dire ce qu'il y a au fond, le sable, la vase. Et donc, quand on vient en plongée, on enfonce le tube dans le sable ou dans le sol et on ferme avec des bouchons hermétiques. Et donc ça nous permet de récupérer du sédiment de garder la structure du sédiment intacte. Donc ça nous permet, nous, d'analyser la colonne d'eau et également ce qu'il y a au fond. Voilà, donc c'est très important d'avoir la structure de la surface. Donc c'est là où on va avoir les échanges entre l'eau et le sédiment. Et après, la couche du fond, où là, on peut avoir des organismes qui peuvent y vivre également. Après, souvent, on a également d'autres, alors que je n'ai pas ici, mais on a d'autres moyens de prélèvement de sédiments. Ce sont des grosses bennes avec des sortes de mâchoires. Et ça s'utilise à partir d'un navire. Par contre, là, on ne garde pas la structure du sédiment. C'est-à-dire que le sédiment est retourné. Après, on a également ce qu'on appelle des CTD. Donc, ce sont des multicapteurs. Où on a différents capteurs qui sont positionnés sur une sonde.
Donc, il y a un cadre métallique. Ça fait quoi ?
Un mètre de haut, donc qui pèse pas loin de 15 kilos.
C'est des capteurs autour, c'est ça ?
Voilà, ce sont des capteurs. Donc, après, on a plein de capteurs différents. Et puis c'est modulable, on a par exemple ici un capteur, si j'arrive à enlever, hop, le PAR, donc ça nous permet de mesurer l'intensité lumineuse. On a également d'autres capteurs pour la fluorescence qui est en dessous, donc ça nous permet de quantifier également les microalgues qu'on a. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir le descendre dans l'eau et ça nous permet de faire des profils verticaux. On démarre la CTD de la surface et on va le descendre en profondeur. Souvent notre point en mer, il descend à 30 mètres. Et donc toutes les deux semaines, on utilise ça et on fait un profil de la surface jusqu'à 30 mètres. On a également la température, la salinité. Donc...
Aline a vu quelque chose.
J'ai vu une manche à air qui ne doit pas être une manche à air. Une manche à eau peut-être. Qu'est-ce que c'est ?
Ça c'est vraiment le plus petit qu'on peut avoir, mais on va avoir un plus gros, je vais vous montrer derrière, ça sera peut-être plus parlant pour expliquer.
Ah oui, celui-là est plus grand.
C'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un filet à plancton. Et en fait, c'est assez basique, c'est une toile avec des trous, une largeur de trous très spécifique. Alors il y en a plein de différentes. Là, ça va être normalement. 80, donc c'est 80 microns, donc c'est vraiment très petit. Et donc ça nous permet, on le traîne souvent par exemple derrière un bateau. Là les bateaux sont pas là, mais bon on a quand même les deux bateaux qu'on peut utiliser. Donc c'est le premier bateau qu'on avait de 7 mètres de long et 2 mètres 50 de large, qui est un bateau qui est plutôt pour, on va dire vraiment la lagune. Et le nouveau bateau, on va vraiment l'utiliser pour des suivis en mer.
Après, on peut regarder vite fait le local plongé.
Ouais. En fait, on passe d'une porte à l'autre et on est vu direct sur l'étang de taux. C'est assez sympathique comme cadre de travail.
Oui, le cadre de travail est quand même assez agréable. Après, l'hiver, c'est plus compliqué quand même. Et notamment, là, on arrive sur le service plongé. On a en fait un local avec des douches qui est essentiel pour les plongeurs parce que l'hiver ici, quand la température est 6 degrés et qu'on fait des plongées de 2 heures, c'est important aussi d'avoir également des douches pour les plongeurs. Ici, on a tout le matériel pour s'équiper, toutes les bouteilles de plongée, donc des combinaisons, des filets pour faire de la récolte, parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de notre travail. Donc on est une unité d'appui à la recherche, donc voilà, s'il y a des chercheurs qui ont besoin de travailler sur un organisme marin, on peut être ici aussi un lieu où on va les récupérer et les amener pour ces chercheurs.
Le fond de la lagune, il ressemble à quoi ?
C'est très mixte. On a des zones beaucoup plus sableuses, des zones beaucoup plus vaseuses où justement la visibilité est moins bonne. La profondeur moyenne, c'est 5 mètres, donc c'est vraiment pas très profond. Mais on a un endroit très particulier qui est le trou de la vis qui peut descendre jusqu'à 30 mètres. C'est un endroit très particulier où il y a une résurgence d'eau douce. Donc pareil, c'est un phénomène très particulier au niveau de l'étang de taux. Et après, il y a des grosses zones d'herbiers, des herbiers Azostera, qui en fait sont vraiment essentiels dans le fonctionnement de la lagune. Et c'est également là où on peut observer des hippocampes qui peuvent vivre dans les herbiers. On va avoir également au niveau du TOG, donc une bande de sable entre la mer et la lagune. Et ces zones-là, on va observer beaucoup de grandes nacres, donc c'est un grand bivalve qui est menacé d'extinction, donc qui est protégé. Et c'est une zone vraiment très particulière parce qu'on en retrouve énormément, plusieurs centaines dans ce secteur-là. Et donc c'est vraiment intéressant également d'étudier ce bivalve. On travaille beaucoup avec des chercheurs et des personnes extérieures également. Mais ici, au sein de la station, en interne, on fait partie du coup de l'OSU, donc on a un observatoire. Et donc nous, on a des suivis, des points de suivi en lagune et en mer. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, nous, on suit certains points. On va échantillonner deux fois par mois, donc une fois toutes les deux semaines. Et donc, ce suivi, il a commencé en 2015 en mer. Et donc, le but, c'est de le pérenniser sur 10, 20, 30, 40 ans. Ça va nous permettre, dans le futur, de voir un peu également l'évolution de ces différents paramètres et notamment de voir l'impact du changement climatique, notamment sur la mer. Et on a également des points en lagune. Et donc, ça nous permet d'enrichir une base de données énorme et dans le futur, que ça soit exploité.
Et on retourne donc à la semelle la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. C'était une première réussie. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.